dans le gamin.
Comment vous expliquez, enfin, vous avez donné des chiffres tout à l'heure qui montraient la, fulgurance de l'expansion de l'islam.
Oui.
Et tout ce que vous nous décrivez, c'est pas. Disons, c'est pas très. Enfin, pas forcément envie, ou en tout cas.
Pas très rassurant, c'est ça?
Pas très rassurant. Mmh. Comment vous expliquez le décalage entre, entre ces deux choses? C'est-à-dire que. Qu'est-ce qui fait qu'on devient musulman aujourd'hui?
Ah oui. Alors, qu'est-ce qui fait le succès de l'islam aujourd'hui? C'est vrai que ça surprend par rapport à tout ce que on découvre de l'islam, bien sûr. Mais c'est que l'islam, je dis souvent, c'est une religion contraignante mais facile. Contraignante parce que il faut suivre les principes coraniques, il faut suivre la loi islamique. La loi a une importance considérable pour les musulmans. C'est la loi de Dieu. Contrevenir à la loi de Dieu, c'est très grave. Donc on veille toujours à bien appliquer cette loi. Il y a des contraintes en matière de culte. Demain, je vous parlerai du culte. Je vous donne un exemple. Le jeûne du ramadan, excusez-moi, c'est le culte le plus suivi chez les musulmans. Pourtant, c'est le plus dur. Parce que le jeûne du ramadan, c'est pas facile du tout. On doit se priver de nourriture et même de la moindre goutte d'eau, du lever au coucher du soleil. Pourquoi ce culte, ce rite est le plus suivi, même par des musulmans non-croyants? Parce qu'il y a la pression sociale, on est surveillé. Vous voyez, on est en Europe, pour ce qui est de la France que je connais mieux, il y a des communes dont je connais les maires, ils me racontent des choses incroyables et qui sont vraies. Pendant le jeûne du mois de Ramadan, il y a des musulmans qui vont surveiller dans les appartements qu'à midi on ne mange pas. Vous voyez, ils ouvrent ils arrivent comme ça de manière inopinée, pour voir si dans cette famille on pratique bien le jeûne. Ou ils vont fouiller dans les poubelles aussi, pour voir s'il n'y a pas des déchets frais qui ont été jetés. Alors ça veut dire que la famille en question a rompu le jeûne de manière illicite, quand il ne fallait pas. Le jeûne, on doit le rompre que le soir. Et donc c'est quand même frappant de voir que même des musulmans non-croyants pratiquent ce rite-là. L'islam, c'est une religion contraignante. On est. Pardon, attendez. Mais en même temps, c'est pour répondre à la question de l'expansion. Oui. Mais. Oui, ben allez-y, oui.
Qu'est-ce qu'il risque?
Ah ben, il risque d'être déclaré comme de mauvais musulmans, d'être des apostats. Selon les cas, ils peuvent être victimes de violences, de vraies représailles. Ah oui, même en France, dans certaines banlieues, oui. Oui, oui. Non, c'est. C'est absolument authentique ce que je vous dis, hein, oui. Oui, oui. Il y en a qui sont battus, par exemple, oui. Parce qu'ils n'ont pas. Et dans les pays arabes, depuis quelques années, ça s'est beaucoup durci. Au Maroc, il est absolument interdit de ne pas suivre le jeûne. Vous voyez, la liberté de conscience dans tout ça, si on rompt le jeûne, eh bien, on va en prison. Et là, c'est aussi le cas en Égypte, depuis quelques années. Et cette règle s'applique même, alors qu'elle n'est pas mentionnée dans la loi, elle s'applique même parfois à des chrétiens. Je me rappelle, il y a 2 ou 3 ans, une famille chrétienne qui tenait un restaurant, je crois que c'était à Port Saïd ou à Suez, au bord de la mer Rouge. Leur restaurant était ouvert à midi, bien sûr, c'était des chrétiens. Eh bien, ils ont été arrêtés, et je crois même que leur restaurant a été saccagé. Ils ont été arrêtés et emprisonnés, vous voyez. Il y a un durcissement terrible. Donc l'islam est une religion contraignante, mais facile. C'est ça qui attire. Elle est facile parce que le dogme est ultra simple, je vous l'ai dit. Il n'y a de Dieu que Dieu et Mahomet et son prophète. Il n'y a pas de mystère. On ne scrute pas le mystère de Dieu. Il n'y a pas de, théologie. Il y a une doctrine à croire, tout simplement. Et en même temps, dans l'islam, ça vous le comprendrez mieux demain. C'est pour ça que je garde en général ce sujet pour la fin. Dans l'islam, il y a du relativisme moral. Ben, on a évoqué la permission polygamique. Bon, du point de vue de la morale chrétienne, avoir 4 femmes en même temps, bon, c'est pas. Il n'y a pas dans l'islam l'invitation au dépassement. Vous voyez ? Il n'y a pas, comme dans l'évangile, Jésus qui nous dit, enfin, qui dit, il n'y aurait pas un Jésus qui dirait aux musulmans, soyez parfaits comme votre Père du ciel est parfait. Il n'y a pas cet équivalent. Il y a toujours des accommodements possibles. Le critère, tout à l'heure je vous ai raconté l'anecdote de ma conversation de l'année dernière avec un musulman à Marseille sur Mahomet, qui n'a pas fait de péché, il a obéi à Dieu. C'est ça le critère moral, de la morale dans l'islam. C'est est-ce que ça sert la cause de Dieu ? Si ça sert la cause de Dieu, c'est permis. Même si, objectivement, c'est un péché. Voyez ? Alors, tout ça, ben, ça rend la religion musulmane attrayante pour certains. Bon, il y en a qui veulent vivre dans un relativisme moral. Hein, et c'est plus facile, c'est beaucoup moins exigeant d'être musulman que d'être chrétien. C'est exigeant sur le plan du rite, du culte, mais facile du point de vue de la doctrine et peu exigeant du point de vue de la morale. Oui ?
Comment alors est-ce qu'il justifie le fait que Dieu se contredise en fait ?
Ah oui, mais c'est vrai, ça, vous m'avez déjà posé la question, j'ai pas répondu. Oui. Non, mais pour les musulmans, on ne se pose pas la question du côté musulman. C'est Dieu qui est souverain et qui décide, c'est tout. Je vous assure, le rapport des musulmans au Coran, il est très étonnant. Il y a une sorte de servilité dans le rapport au Coran. On n'a pas à discuter. Si le Coran est classé de cette manière, qui n'a pas repris l'ordre chronologique, si il y a des contradictions entre les versets de la Mecque et les versets de Médine, on n'a pas à s'interroger pourquoi. C'est Dieu dans sa souveraineté qui a décidé qu'il en était ainsi. Et voilà. On peut ajouter qu'il y a le Coran présente une prégnance psychologique extraordinaire sur l'esprit musulman. Moi, je connais des jeunes, des enfants, des jeunes adolescents qui apprennent le Coran par cœur. En 2 ans, en Égypte, je connais un cas particulier. En 2 ans, un gamin de 10 ans à 12 ans, il a appris le Coran par cœur, mais sans réfléchir. L'important, c'est d'apprendre le Coran et de savoir le réciter. Voyez ? C'est ça qui compte. Et la raison intervient peu. Et je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Joseph Fadel. Oui. Alors, vous connaissez donc sa vie. Vous l'avez lu ? Oui. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas lu, je dis un mot. Joseph Fadel est né musulman, chiite, à Bagdad, en Irak. Il est devenu chrétien, il vit en France depuis 10 ans maintenant. Bon, Joseph est devenu un ami, je le connais bien. Alors, il a publié en France le récit de sa conversion. Il s'est converti grâce au témoignage d'un compagnon d'armée qui faisait le service militaire, chrétien. Au début, ça l'effarouchait à l'idée d'être partager la même chambre qu'un chrétien. Et puis, il s'est dit un jour, finalement, je vais l'amener à l'islam. Et c'est le contraire qui s'est passé. Il y a eu donc le témoignage de son compagnon chrétien. Et puis aussi, un jour, il a dit aux chrétiens, ben alors je vais lire l'évangile. Et le chrétien a eu une réponse excellente, très habile. Il lui a dit, avant de lire l'évangile, lis le Coran. Alors Joseph dit, mais le Coran, je le lis, je le connais par cœur, tout ça, qu'est-ce que je vais faire à le relire ? Si, 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 le chrétien lui dit, lis le Coran, mais lis-le avec la raison, pas comme ça, pas comme une machine que tu répètes. Alors Joseph, le futur Joseph, il s'appelait Mohamed à l'époque, a lu le Coran, et là, ses yeux, les yeux de sa raison se sont ouverts, et il a dit, mais comment ? Alors Dieu me permet de battre ma femme ? Mais comment est-ce que Dieu peut me permettre de battre ma femme ? Parce que c'est écrit, il y a un verset qui permet à l'homme de battre sa femme. Comment est-ce possible ? Je ne sais plus, enfin, il y a plusieurs passages qui l'ont troublé. Alors, il est allé voir l'imam que sa famille fréquentait, à Bagdad, pour lui poser des questions. Et l'imam lui disait, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu poses des questions ? Il n'y a pas de questions à poser. Tu dois prendre le Coran comme il est, c'est tout. Alors, ensuite, il a eu un songe. Il a eu un songe du pain de vie. Le pain de vie, donc. Alors, à ce moment-là, il était ouvert à l'évangile. Et donc, le chrétien lui a prêté l'évangile. Il a commencé par Saint Jean, avec le pain de vie, justement, ça coïncidait. Et c'est comme ça qu'il est devenu chrétien, Joseph Fadel. Vous voyez, donc, cette prégnance extraordinaire que le Coran exerce sur le mental des musulmans, à cause de son statut divin. C'est pourquoi, vraiment, le jour où les musulmans se seront affranchis de ce dogme qui emprisonne, qui enferme, qui empêche l'usage de la raison, eh bien, le blocage restera. C'est ce que dénonce justement Abdelwahab Medeb, cet intellectuel musulman qui se diagnostique, qui voudrait qu'il n'y ait plus aucun tabou. Et moi, je suis persuadée que là, de là vient le blocage. Regardez, le monde musulman ne produit rien. Tout ce que le monde musulman utilise aujourd'hui de la modernité, ça vient d'ailleurs. Mais le monde musulman, étant donné qu'il se croit supérieur aux autres, est incapable de faire l'autocritique ou l'examen de conscience. Alors c'est toujours les autres qui ont tort. Si le monde musulman est à la traîne, mais vraiment à la traîne, l'analphabétisme est très répandu, la production littéraire est très très faible, il n'y a pratiquement pas d'invention technologique. Il y a bien le pétrole, mais ça c'est Dieu qui le donne, mais ce n'est pas une invention, ce n'est pas le fruit d'une créativité. Le monde musulman ne crée pas. Alors, mais c'est toujours la faute des autres. Alors on cherche des boucs émissaires. Alors c'est la colonisation, l'hégémonie américaine. C'est triste, hein, vraiment c'est triste. Moi, je vous assure, j'ai mal pour le monde musulman parce qu'ils sont enfermés dans un système clos, si vous voulez, qui ne peut pas s'ouvrir. Et voilà. Alors, au fond de ça, pour conclure cette question, je me dis que pourquoi est-ce qu'il y a ce blocage? Pourquoi est-ce qu'aucune autorité est en mesure de dire ben, ouvrons les portes à l'exégèse? Est-ce qu'au fond, je ne porte pas de jugement de valeur, je me pose la question, est-ce qu'au fond, il n'y a pas, plus ou moins consciemment, je ne sais pas, je ne peux pas répondre, mais la peur de la confrontation à la vérité? Est-ce qu'il n'y a pas cette peur que si on ouvre les vannes à la recherche, à la vraie recherche, tout le système islamique va s'effondrer, va s'écrouler? Parce que ce n'est pas normal. L'Église, à un moment donné, a été réticente à l'exégèse aussi. Et puis finalement, elle a ouvert les portes à l'exégèse. Elle n'est pas morte pour autant. Au contraire, l'exégèse, quand elle est bien pratiquée, elle fortifie la foi. Parce qu'elle enracine la foi dans l'histoire et dans la culture, etc. Vous voyez? Alors, je crois qu'au fond, c'est ça. C'est la peur d'une confrontation à la vérité. Seulement, évidemment, n'allez pas dire ça aux musulmans.